Bonsoir, le président Félix Tshisekedi entame une visite d'État dès ce mercredi 24 mai jusqu'au dimanche 28 en Chine pour relancer la coopération avec ce pays. La République démocratique du Congo, selon son ministre des Affaires étrangères, parle de revitalisation des relations entre les deux pays, fixer les idées précises des projets à réaliser ensemble, notamment des investissements dans la chaîne de valorisation des ressources naturelles de manière à équilibrer la balance commerciale. Il sera également question dans cette visite d'État du président de la RDC de l'appui à apporter au FRDC, l'armée de la RDC, ajoute Christophe Lutundula. Quelle lecture faire de cette première visite d'État du président Félix Tshisekedi en Chine et quels pourraient être les bénéfices à tirer entre ce pays et la RDC? C'est le débat de ce soir et pour en parler, nous recevons Moïla Chiembe, professeur et directeur de l'Institut panafricain de géopolitique de Nancy en France, spécialiste en relations internationales. Moïla Chiembe, bonsoir.
Bonsoir.
Également dans ce débat, Arsène Mouaka, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Arsène Mouaka, vous êtes professeur à l'université de Kinshasa et chercheur au centre d'études politiques de cette même université. Enfin, Bruno Kadiat, professeur en économie de développement et docteur en économie de développement et professeur à l'université de Kolwezi dans la province du Lualaba. Bruno Kadiat, bonsoir.
Bonsoir Guy Martin, merci de m'avoir associé à ce débat sur Radio Okapi et je salue tous ceux qui participent.
Merci. Dona Madimba, la présentation ce soir. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions à tech@radiookapi.net.
Le président Félix Tshisekedi entame une visite d'État dès ce mercredi 24 mai jusqu'au dimanche 28 en Chine pour relancer la coopération avec ce pays. La République démocratique du Congo, selon son ministre des Affaires étrangères, parle de revitalisation des relations entre les deux pays, fixer les idées précises des projets à réaliser ensemble, notamment des investissements dans la chaîne de valorisation des ressources naturelles de manière à équilibrer la balance commerciale. Il sera également question dans cette visite d'État du président de la RDC, de l'appui à apporter au FRDC, ajoute Christophe Lutundula. On écoute ici le ministre congolais des Affaires étrangères. Il est au micro de notre envoyé spécial en Chine, Jocelyne Moussaou.
Je dis la revitalisation parce que on peut séquencer nos relations en trois phases. Il y avait la visite du président Mobutu qui était vraiment une embellie dans les relations, marquée par la suite par des projets précis. Après, le président Mobutu est parti, il y a eu une sorte de gel. Et plus tard, avec Joseph Kabila, il y a eu le dégel, il y a eu tous les chantiers et d'autres qui poussaient encore, avec au centre ce qu'on a appelé le contrat du siècle. Par la suite, encore une fois, le gel a commencé. Les projets s'exécutaient au ralenti jusqu'à l'arrêt complet. De manière générale, le gel de relations entre la RDC et beaucoup de ses partenaires. En fait, notre pays est entré graduellement dans la zone de l'isolement diplomatique. Avec tout ce qu'il y a eu comme turbulence au niveau de politique interne. Quand le président Tshisekedi arrive, c'était la mise en veilleuse de la coopération. C'est ce que le président a décidé, de relancer formellement la coopération.
Moïla Chiembe, professeur et directeur de l'Institut panafricain des géopolitiques de Nancy en France, spécialiste en relations internationales. Quelle interprétation faire de ce voyage de Félix Tshisekedi en Chine et est-ce que la RDC peut y tirer quelques profits? Lesquels?
Ben, disons que il est encore trop tôt pour savoir exactement ce qui se passera et quand bien même quelques contrats seraient signés, qu'est-ce que le Congo gagnerait en réalité? Parce qu'il faut rappeler que le premier dossier sur lequel on attend le président de la République et son gouvernement, c'est de faire le point sur le fameux contrat du siècle, 6 milliards de dollars, contre les minerais. La Chine, par son soft power, avait voulu montrer que ce n'est pas une puissance coloniale, c'est un nouveau pays, donc non seulement pays industrialisé, mais considéré exactement comme un pays émergent. La Chine a vendu son engagement économique et financier derrière la République démocratique du Congo comme un surgissement ressentent que demain, la Chine, à la différence de la Belgique, de la France, des puissances coloniales, ce sera la coopération gagnant-gagnant. Mais lorsqu'on regarde à rebours ce fameux contrat du siècle, les Congolais ont fait grise mine. Dois-je rappeler que l'Assemblée nationale congolaise, après une enquête, a abouti à l'idée que cet accord n'a pas profité à la République démocratique du Congo. Au contraire, la Chine, qui exploite ces minerais gagés pour au moins une trentaine d'années, a gagné sur toute la ligne alors que le Congo a perdu la manche. Alors, on attend de voir comment le président de la République, Tshisekedi, va aborder cette question avec ses amis chinois. Parce que vous savez, les relations entre les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Alors, il ne sert à rien d'aller en Chine faire au fusil, croyant que les Chinois sont là, ils vont ouvrir les yeux pour les Congolais. Non, le président de la République doit être avisé par le fiasco de l'accord précédent du siècle pour pouvoir discuter pied à pied avec les Chinois et voir où sont les intérêts du Congo, où sont les intérêts des Chinois, et c'est à ce prix-là.
Alors, Moïla Tshiembé, comme autre préoccupation mise en avant par la partie congolaise, on parle de préciser les idées sur les projets à réaliser ensemble, on évoque même un lien avec l'apport que pourrait apporter la Chine à nos forces armées, les FRDC, mais en réalité, un peu comme vous le disiez tout à l'heure, est-ce que le président de la République ne part pas en Chine seulement pour bien fixer les termes de cet accord sino-congolais des années 2008?
Mais évidemment, chat et chaudé, grain l'eau froide. La Chine a été vantée, etc., etc. L'accord du siècle a vanté d'une souris. Par conséquent, le président de la République doit être, vigilant. Il est vrai qu'il y a des formules de politesse diplomatique que nous entendrons de la part du gouvernement congolais de la Chine. Mais il faut aller au-delà des symboles pour pouvoir réellement négocier pied à pied avec la Chine, qui est un allié au sens où il y a déjà ce contrat dont nous parlions tout à l'heure. Et depuis, les relations entre la Chine et la République démocratique du Congo, économiquement parlant, a été gelée, parce que depuis, la République démocratique du Congo n'a pas gagné grand-chose. Alors, maintenant, sur le plan de l'armée, vous connaissez le propos ou sinon le constat accablant du rapport des Nations Unies constatant que le M23, le mouvement armé soutenu par le Rwanda, avait des capacités militaires en termes de matériel supérieures aux forces armées congolaises, c'est-à-dire l'armée nationale des États. C'est une humiliation. Alors, si la Chine peut y contribuer, pourquoi pas? Alors là aussi, il faut juger sur pièce, au retour du président, qu'est-ce qu'il pourra obtenir comme garantie d'investissement, notamment d'achat, soit des avions de combat, soit des chars ou des blindés. On jugera sur pièce.
Alors, on a toujours présenté la RDC et les pays africains comme étant les précaristes, surtout des occidentaux. Est-ce que vous pensez que la RDC peut avoir le courage de franchir le Rubicon jusqu'à demander ou à faire un achat du matériel de poids militaire en Chine?
Mais la République démocratique du Congo, c'est un État exceptionnel. Dès 1884-85, l'État indépendant du Congo est créé par 14 puissances mondiales. Certes, il n'y avait pas de Congolais, mais c'était un État souverain, mondialement reconnu. Alors, depuis, quelle était sa diplomatie? On lui a imposé la diplomatie de la porte ouverte, c'est-à-dire cet État souverain devrait coopérer, ouvrir ses frontières à toutes les 14 puissances qui avaient signé l'acte de Berlin, y compris ceux qui allaient y adhérer. C'était le pays de la neutralité, de la libre navigation et de la liberté de commerce. C'était la mondialisation avant le terme. Par conséquent, que le président congolais fasse comprendre et aux Chinois et à ses alliés ou ses amis européens, occidentaux, américains, que le Congo n'a rien à gagner ni rien à perdre, de négocier avec tous les pays qui veulent l'aider, c'est tout à fait pertinent, parce qu'en fait, la réalité du monde est que depuis l'effondrement du bloc communiste et la disparition de l'Union soviétique, il n'y a qu'un seul marché, le marché mondial. Donc, que le Congo achète ou vende à la Chine, les États-Unis vendent et achètent à la Chine. Par conséquent, il n'y a plus de barrière. L'essentiel, c'est de le faire en sauvegardant les intérêts de la République démocratique du Congo. Le reste, c'est des balivernes.
Merci, professeur Moïla. Nous restons avec vous dans ces débats. Arsène Mwaka, professeur à l'Université de Kinshasa et chercheur au Centre d'études politiques de cette université. Et quel est, selon vous, le motif réel de cette visite d'État du président congolais en Chine, qui, du reste, est sa toute première visite d'État dans ce pays?
Oui, je m'imagine qu'avec tout ce que le Congo traverse, le Congo a fait un grand travail, et particulièrement notre gouvernement, un grand travail dans la diplomatie, et la visite du président de la République à Chine rentre justement dans la dynamique de cette diplomatie qui veut que le Congo rentre sur l'échiquier international et que le Congo demeure un partenaire important à l'Afrique. Et donc, je m'imagine que c'est dans cette même lancée que le président de la République effectue cette visite importante à Chine. Et à cela, on s'imagine en même temps que notre situation actuelle nous y pousse. On est vraiment au point faible et on cherche des alliés à tous les niveaux. Sur le plan politique et militaire, je m'imagine que c'est cela. Mais je sais que la Chine est avant tout trop commerciale et elle ne manquera pas de chercher aussi ses intérêts dans cette porte que nous-mêmes nous ouvrons pour elle.
Alors, la RDC, c'est un peu, pour utiliser un mot facile à comprendre, c'est plainte hein, de l'existence de ce contrat chinois qui, au finish, hein, selon l'analyse de beaucoup d'expertises, a défavorisé la RDC. La Chine ne s'est pas montrée totalement réfractaire. Pensez-vous que les deux pays vont égaliser les gains à avoir à travers ce contrat, ou bien le déséquilibre en défaveur de la RDC pourrait toujours se poursuivre?
Oui, et je sais que le président de la République était dans l'opposition quand les contrats chinois ont été signés, et ces contrats ont été signés dans une grave opacité, au point où personne ne pouvait s'imaginer, personne ne savait s'imaginer ce que ces contrats. Et aujourd'hui, je pense qu'avec la visite du chef de l'État, c'est l'occasion finalement de pouvoir savoir qu'est-ce qui est derrière ces contrats. Et donc, l'une des choses que l'opinion publique doit devoir bénéficier, c'est de connaître ce qu'a été ce contrat. Je pense que pour une fois, on va clarifier qui de la Chine et de la République démocratique du Congo doit à l'autre, puisque on nous a présenté ce contrat comme un contrat qui allait relancer le pays, qui allait transformer ce pays, mais de la manière dont il s'est terminé, ou je ne sais pas s'il continue, en tout cas, on n'y comprend plus rien. Et donc, est-ce que nous avons une dette? Ou bien c'est la Chine qui nous doit? C'est la première des choses que nous voudrions bien comprendre. Et je pense que la délégation du chef de l'État nous aidera à comprendre. Et pour une fois, l'opacité va cesser.
Alors, je posais plus ou moins cette question que je vous pose maintenant au professeur Moïla Tshiembe. Est-ce que l'ouverture de la RDC sera avec la Chine pleine et totale? Et est-ce que la RDC a les mains libres pour faire une ouverture totale quand on sait qu'historiquement, les pays africains, la RDC y compris, sont généralement du giron de l'Occident?
Oui, je pense que l'histoire de la Chine et de la République démocratique du Congo est longue. Et on se rappellera par exemple que les Chinois étaient parmi les formateurs de nos commandos à Kisangani. Hein, il y avait une coopération militaire congolo-chinoise, de telle sorte que l'on ne s'imagine pas que coopérer avec la Chine, qui du reste ne va pas très loin sur le plan politique, puisqu'elle privilégie ce qui est économique, serait réellement un problème. À mon sens, je ne vois pas de problème, puisque au plus fort du mobutisme, au temps où le Congo était très engagé avec les États-Unis, eh bien, la Chine était un partenaire de la République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, avec l'évolution du monde et le poids que la Chine a eu à se donner vis-à-vis de toutes ces puissances, je ne pense pas que ça puisse faire réellement problème. Mais je ne suis pas de ceux qui pensent que la Chine va nous faire avancer dans ces qui nous oppose au Rwanda, parce que la Chine est avec tout le monde, elle coopère avec tout le monde, c'est à nous de tirer ce que nous pouvons tirer, et je les choses que nous pouvons faire, Poutine ne refusera pas.
Merci professeur Arsène Mouaka, professeur à l'université de Kinshasa et chercheur au centre d'études politiques de cette même université. Bruno Kadiat, docteur en économie de développement et professeur à l'université de Kolwezi dans la province du Lualaba. Très souvent, depuis un moment, lorsque le président Félix Tshisekedi se rend surtout dans les grandes puissances, l'achat d'armes, la coopération militaire est presque toujours mise en avant. Cette fois-ci en Chine, on évoque aussi la possibilité pour parler au sujet d'un appui militaire à apporter à nos forces armées. Vous pensez que c'est un argument de communication ou de manipulation de l'opinion que nos dirigeants vendent à la nation, ou c'est normal, selon vous, que la RDC, pour résoudre son problème sécuritaire, devrait et doit pouvoir s'ouvrir à presque tous les pays qui peuvent être à mesure de lui apporter une tranquillité sécuritaire?
Merci beaucoup, M. Dona Madimba. Je pense que la coopération se fait dans tous les domaines. Mais le chef de l'État effectue cette visite en Chine, c'est d'abord pour renforcer le partenariat Chine-RDC et revigorer la relation sino-congolaise. La Chine, comme nous le savons, est la principale destination de produits miniers congolais. L'un des principaux sujets, à mon avis, de la visite du chef de l'État sera les discussions sur l'exécution de la convention signée entre le groupement d'entreprises chinoises et la République démocratique du Congo. Donc, 15 ans après la signature de cette convention, le constat reste amer. Les infrastructures promises par la partie chinoise en échange de l'exploitation du cobalt et du cuivre se font toujours attendre de la Madimba.
Pensez-vous que cette fois-ci, puisque la première fois que l'entente entre les entreprises chinoises et la RDC, c'est ce qu'on appelle régulièrement le contrat chinois, a été signé, on s'est rendu compte que la RDC a été pénalisée. Pensez-vous que cette fois-ci, on a tiré les bonnes leçons et qu'on a pris toutes les mesures pour ne pas refaire cette même erreur?
Oui, je pense que on a tiré tout au clair. Si vous lisez le rapport de l'inspection générale des finances, les entreprises chinoises ont déjà encaissé un gain évalué à près de 10 milliards de dollars américains, tandis que notre pays n'aurait bénéficié que de 800 et quelques millions de dollars en termes d'infrastructures. Le premier contrat de reconstruction signé en 2007 concerne les liaisons ferroviaires entre le Grand Katanga et le Congo central, plus ou moins 3000 kilomètres, et routières entre Kisangani et Lubumbashi. Aussi 3000 kilomètres, si je ne me trompe, le secteur de santé, construction d'une trentaine d'hôpitaux et 145 centres de santé, deux universités, 5000 ou 6000 logements sociaux. Et le second contrat signé avec la China Development Bank et multisectoriel, santé, agriculture, environnement et infrastructure, et consiste à créer une plateforme financière qui servira à financer des projets de développement. Moi, je pense que la délégation du chef de l'État en Chine est en bonne position pour discuter et pour renégocier tous ces contrats-là.
Tout le monde n'est pas enthousiaste de l'apport que pourrait apporter la Chine. Est-ce que vous comprenez que, malgré que la Chine reste plus ou moins, entre guillemets, populaire dans les pays africains, une bonne portion de la population congolaise se montre un peu sceptique de ce que la Chine pourrait apporter à la RDC?
Oui, je pense que l'exploitation minière contribue au développement économique et à la réduction de la pauvreté. Dans de nombreux pays de tradition minière, comme Chili, Argentine, je peux prendre aussi le cas de Botswana, Afrique du Sud ou Australie par exemple, le secteur minier a contribué énormément à l'économie nationale et régionale. Des récentes études du Conseil international des mines et des métaux ont confirmé la capacité de ce secteur à relancer le développement économique. Donc pour ce qui nous concerne, le cas de notre pays, je pense qu'il est question de négocier sur un partenariat gagnant-gagnant. Bien sûr, si la Chine vient chez nous, ce n'est pas pour des raisons philanthropiques ou caritatives ou quoi là. Non, c'est parce que la Chine y trouve son compte. Et ça présente aussi, il faut que la RDC en tire profit. C'est un peu ça.
Merci beaucoup, professeur Bruno Kadiat. Cette émission est aussi interactive et donc fait appel à la participation de nos auditeurs, du public. Nous venons donc d'ouvrir le standard pour leur donner aussi la parole. Alors, professeur Moïla Tiembe, professeur et directeur de l'Institut panafricain des géopolitiques et de Nancy en France, spécialiste en relations internationales. Nous allons écouter pour vous et vous allez réagir à l'intervention de cet auditeur qui nous appelle depuis Kananga.
Maître Alidor Mampouya, avocat parti de la ville de Kananga dans la province du Kasaï central. La visite du chef de l'État en Chine tombe à point nommé parce qu'à ce jour, la plupart des contrats signés par le passé entre les deux pays étaient jugés léonais, en ceci qu'ils profitaient plus à la Chine qu'à la RDC et que la RDC a été considérée comme faiseur des grandes puissances économiques de par le monde. En plus, cette visite du chef de l'État d'arracher une coopération militaire franche pour soutenir les FARDC et aider les défis sécuritaires à l'est du pays face à l'échec des troupes déployées par les forces régionales et aussi par certains pays dans cette partie du pays.
Professeur Moïla Tiembe, quelle est votre réaction à cet auditeur, mais aussi votre avis sur le fait que devrait faire la RDC pour éviter de se faire avoir une deuxième fois?
Évidemment, le président de la République est attendu, je ne peux pas dire au tournant, mais dans la mesure où lui-même a vu que tout le pays debout a constaté que l'accord a profité plus à la Chine qu'à la République démocratique du Congo. C'est un constat de tout le monde aujourd'hui, qu'on soit spécialiste ou non. Alors, puisqu'il connaît cette réalité, pour pouvoir convaincre les Congolais qu'il engage les relations avec la Chine sous un angle nouveau, il va falloir qu'ils prennent langue avec les dirigeants chinois pour clarifier les conséquences de ce fameux contrat du siècle, parce que le Congo continue à perdre jusqu'à aujourd'hui. Imaginez-vous, M. Dona Madimba, dans 20, 30, 40 ans, lorsque la République démocratique du Congo voudra s'industrialiser, dites-moi, dans quel pays la République démocratique du Congo achèterait le cuivre, achèterait le cobalt? Il faut regarder les choses, parce que les gens sont empressés. On regarde ce qui se passe aujourd'hui, on a besoin de devises, il faut vendre les minerais, même à un prix réduit. L'essentiel, c'est d'avoir quelques devises, etc. Mais ça, c'est le court terme. Mais à long terme, ce pays, dans 20, 30, 40, 50 ans, où est-ce que le Congo pourra acheter le cuivre, acheter le cobalt pour son industrialisation? Personne ne se pose ces questions-là. On voit seulement le court terme en disant oui, on a besoin des devises étrangères, il faut vendre, et c'est la conditionnalité même de ce pays à économie extravertie, je n'en reviens pas. Alors, c'est l'occasion pour le président de la République de montrer que chat échaudé craignant l'eau froide, il y a peut-être lieu de redresser la barre. Non pas d'arracher tout de suite, mais d'indiquer le chemin, de montrer aux Chinois que dans le premier contrat du siècle, le Congo a perdu. et on ne peut pas à nouveau engager la RDC avec la Chine en partant des mêmes postulats pour tirer les mêmes conclusions, il faut changer la donne. Mmh. Évidemment, il y a la question de ce que pourrait être la contribution militaire de la Chine. Là aussi, nous sommes dans une guerre asymétrique qui n'est pas nécessairement une guerre classique contre une armée avec des blindés, des chars, des avions, etc. Alors, il est vrai que dans le premier temps, il faut quand même quelques matériels militaires nouveaux. Encore faut-il que nos soldats soient au courant comment l'utiliser. C'est un autre débat. Mais le pays peut acquérir quelques engins, soit des blindés, soit des chars, pourquoi pas quelques avions de guerre. C'est possible, mais les militaires, on peut envoyer des gens pour les former. C'est un acquis. Mais alors, l'enjeu, c'est de savoir qu'est-ce qu'on va demander à la Chine. Nous pensons que ce pays a des experts militaires. On ne peut pas prendre n'importe quel matériel militaire de la Chine. Parce que la Chine vend tout. Même peut nous vendre des choses qui n'ont rien à voir avec notre armée et la menace qui pèse sur le pays. Par conséquent, dans l'accord ancien du siècle, c'est un problème d'expertise. Le fait d'avoir un ministre ou d'avoir un directeur général qui ne connaît pas la paix, qui n'est pas un expert, c'est un danger parce que ces Congolais honorables par-dessus le marché qui ont signé le contrat que tout le monde déplore aujourd'hui, certains ou nombre d'entre eux sont encore vivants. Ils se sont frappés la poitrine pour le patriotisme en disant voilà, on a arraché ce qu'on a arraché à la Chine. Mais le résultat, c'est un fiasco. Donc, il faut une expertise. Il faut éviter des sentiments à un petit discours, à un grand banquet. Oui, ça, c'est la diplomatie, c'est le passé diplomatique. Mais il ne faut pas s'arrêter au symbole. Il faut aller vers le fond. Et évidemment, dois-je rappeler qu'on a des élections à la fin de l'année. Les Chinois n'ignorent pas. Peut-être voudront-ils attendre pour voir de quoi demain sera fait, parce que ce pays est en élection. C'est aussi un autre phénomène en matière de stratégie. Vous discutez avec un pays comme la Chine, qui sait que l'accord précédent, c'est elle qui a tiré la chandelle, qu'on a d'autres Congolais opposants au président Tshisekedi. Que pensent-ils de la Chine? Qu'est-ce qu'ils peuvent promettre à la Chine? Aller savoir si la Chine pourra s'engager à fond avec ce gouvernement et ce président, alors que nous sommes à quelques heures des élections. Donc ce sont des pondérables avec lesquels il faut compter.
Merci professeur Moïla. Arsène Mouaka, professeur à l'université de Kinshasa et chercheur du centre d'études politiques de l'université de Kinshasa. Professeur, on va écouter pour vous la réaction de cet auditeur Toumaini.
Toumaini Silvano à Bukavu au Sud Kivu. À mon avis, je pense que cette visite du président de la République est un non-événement, car beaucoup de visites déjà faites de grande envergure n'ont jamais prévu de cesser. Et étant donné que cette visite n'est pas la première réalisée par le président Félix, et tous les contrats conclus avec les partenaires ne profitent jamais aux Congolais, mais plutôt à des individus. Et ce sont souvent des contrats léonaux. Pour ce faire, l'État congolais doit conclure les contrats où le peuple doit se retrouver, et non les contrats pour lesquels le peuple ne profite pas, mais plutôt ce sont les individus qui se retrouvent.
Arsène Mouaka, votre réaction?
Mon point de vue, c'est d'être d'accord. Oui, c'est d'être d'accord avec l'auditeur dans la dernière partie de son intervention, là où il parle de la nécessité qu'il y ait cette fois-là des contrats qui sont dans l'intérêt de la population, puisque nous ne pouvons pas dire, comme il venait de le dire, que ça ne sert à rien, c'est un non-événement. Je pense que aller vers la Chine nous permet d'un côté de connaître ce que tout le monde ignore, la réalité des fameux contrats chinois, les contrats du siècle. La deuxième chose qu'on peut tirer là-bas, c'est que la Chine reste le centre commercial du monde entier. Et nous échangeons beaucoup avec elle, et donc je ne pense pas que ce soit inutile, et le ministre Lutundula a le dire, il va falloir qu'on puisse équilibrer la balance de paiement entre nous et la Chine, quand bien même je ne pense pas que ça sera immédiat, mais je pense qu'il faut commencer. Et avec la Chine de plus en plus, dans le secteur éducatif, Nous échangeons beaucoup. Il y a beaucoup de boursiers congolais qui vont de plus en plus à Chine et beaucoup de jeunes gens dont les parents ont des moyens qui sont formés à Chine. Et je pense que nous avons longtemps eu à exploiter un seul modèle, le modèle d'enseignement occidental. Il est aussi important qu'on puisse explorer du côté de ces pays qui étaient comme nous, qui n'étaient pas assez avancés comme les États occidentaux, essayer de voir comment ils s'en sont sortis. Et je pense qu'à travers l'éducation, il y a des enjeux. Au-delà de ce qui est militaire, comme j'ai dit, on n'attendra pas beaucoup de la Chine. Nous n'attendrons pas que la Chine vienne se battre à notre place. Elle n'a jamais fait ça quelque part. Mais je pense que la Chine, si nous lui donnons l'argent, la Chine va nous donner le matériel de combat. La Chine peut nous donner aussi des formateurs. Et question qu'elle ne puisse pas abîmer aussi ses relations avec d'autres pays, puisqu'elle est équilibriste à cette matière. Elle n'aime pas souvent que ce qui est politique empiète sur ce qui est économique. Et donc, c'est à nous et à notre gouvernement de formuler pratiquement ce que doivent être nos intérêts dans cette coopération et dans cette relance de la coopération.
Alors, professeur Arsène Mouaka, dans la communication de cette visite du président de la République en Chine, un vocabulaire qui aurait, au sens d'une bonne partie de l'opinion, dû être mentionné, ne l'est pas. On parle beaucoup de production locale et d'agriculture à mettre en valeur en République démocratique du Congo. La Chine est un grand pays d'agriculture. Est-ce que c'est un oubli si on ne met pas ce concept en avant, ou bien vous pensez que dans tout ce qui n'est pas dit ou n'est pas mis forcément en avant dans les négociations qu'il y aura en Chine, l'agriculture peut faire partie?
Absolument, je pense que c'est une grosse erreur que nous commettons de ne voir notre coopération avec la Chine et les autres pays du monde à terme de minerais. La Chine collabore avec beaucoup de pays. Je peux prendre un simple exemple. L'avocat est de plus en plus sérieusement consommé en Chine, de telle sorte que des pays comme la Tanzanie, le Kenya, l'Ouganda et bien d'autres exportent l'avocat du côté de la Chine. Et le commerce de l'avocat est dans la montée. Nous sommes restés dans de vieux concepts, car bien même de ce côté-là aussi, on n'agit pas bien en termes de cacao, de café, je ne sais pas, d'huile de palme et tout le reste. Il y a de nouvelles choses qui émergent et la Chine est partenaire avec beaucoup de pays du monde. Il est question que nous puissions prêter, essayer de voir qu'est-ce que nous pouvons faire comme échange et essayer d'équilibrer notre balance de paiement avec la Chine.
Merci professeur Arsène Mouaka. Bruno Kadiat, docteur en économie de développement et professeur à l'université de Kolwezi dans la province du Lualaba, nous souhaitons écouter votre avis après ce commentaire de cet autre auditeur qui nous appelle aussi de Bukavu.
Moi c'est Gabriel Ekwalanga depuis Bukavu au Sud Kivu. Nous saluons d'abord de passage cette visite du chef de l'État en Chine dans le but de booster les relations diplomatiques entre ces deux États. Mais au-delà de cet encouragement, le chef de l'État doit essayer de diminuer aussi ses déplacements qui apparemment n'apportent rien de spécial au pays, à part des dépenses qui s'élèvent à des millions de dollars. Le chef de l'État a déjà organisé beaucoup de voyages dans les cadres diplomatiques dans plusieurs pays puissants et même dans certains pays de la région et de la sous-région. Mais au finish, nous ne gagnons pas grand-chose dans les cadres diplomatiques, commercial et même militairement aussi. Cette visite en Chine n'aura à mon avis rien de différent que celle dont il a déjà effectué dans bien d'autres pays.
Bruno Kadiat.
Merci beaucoup. Je pense que la visite du chef de l'État, comme d'aucuns l'ont dit là, tombe à point nommé. Elle se déroule, comme vous le savez, au moment où l'Union européenne et la RDC s'apprêtent à lancer des négociations pour un partenariat sur l'exploitation minière dans la perspective de la transition écologique. Donc le défi est également de taille pour la RDC qui ambitionne de développer une chaîne de valeur locale, un marché autour de l'industrie des batteries, des véhicules électriques et des énergies renouvelables. Donc la visite du chef de l'État, c'est pour moi une occasion pour notre pays d'exiger la renégociation de ces méga contrats ressources naturelles contre infrastructures. Donc on ne peut pas dire que non, le chef de l'État effectue beaucoup de visites et qui n'apporte rien. Non, c'est vraiment fondamental. Cette visite tombe à point nommé.
Tout à l'heure, Arsène Mouaka revenait sur le fait que le volet agriculture n'a pas été mis en avant. En fait, c'est moi qui l'ai relancé hein, sur l'impression que l'opinion se dégage du fait que le concept agriculture n'a pas été mis en avant comme les autres concepts qui construisent le discours officiel de cette visite du président Félix Tshisekedi en Chine. Est-ce une erreur selon vous de ne pas mettre ce concept en avant, et est-ce que ce serait une erreur si dans ces échanges que la RDC aura ces jours-ci avec la Chine, le volet agriculture n'est pas mentionné?
Non, je ne pense pas. Le volet agriculture fait partie aussi de... Je l'ai dit, le second contrat l'a signé avec la China Development Bank et multisectoriel. Là, on voit la santé, l'agriculture, l'environnement et l'infrastructure. Donc, je pense qu'il sera aussi question de parler de l'agriculture pendant cette visite du chef de l'État en Chine. L'agriculture, c'est un secteur très important. C'est l'agriculture qui pourvoit de matières premières au secteur secondaire. Donc je ne vois pas comment est-ce qu'on peut mettre de côté ce secteur-là.
Merci. L'émission Dialogue entre Congolais de ce soir a épilogué sur la première visite du président Félix Tshisekedi en Chine. Nous sommes aux heures des conclusions pour donner les dernières impressions de ce que l'on peut retenir de nos débats de ce soir. Arsène Mouaka, professeur à l'université de Kinshasa et chercheur au centre d'études politiques de cette université. Cette émission est progressivement en train de se terminer. Pour vous, en gros, qu'est-ce qu'on peut retenir de nos débats de ce soir?
Oui, nous pouvons retenir que nous sommes d'accord que le chef de l'État aille en Chine, échanger avec les Chinois, mais que d'un côté, il puisse nous clarifier sur ce que le contrat chinois par le passé nous a fait et que dans l'avenir, qu'est-ce que nous allons faire? Nous l'encourageons dans ce moment où la RDC est en faiblesse du côté militaire pour que ce soit une opportunité de s'équiper. Et peut-être, si pas de s'entraîner. Et donc, nous souhaiterions que cette fois-là, dans cette phase, le Congo puisse coopérer comme les autres pays qui coopèrent avec la Chine et qui trouvent leur intérêt, quel que soit que ces intérêts soient inégaux. Mais il va falloir quand même qu'un jour, le Congo arrive à signer un contrat qui ne devienne pas une source de problèmes pour lui. Puisqu'il faut craindre qu'à la fin, on nous informe que c'est nous qui devons à la Chine après que nous ayons assisté à des choses inacceptables dans ces fameux contrats du siècle.
Et selon vous, quels sont les garde-fous? Qu'est-ce que la RDC devrait faire cette fois-ci pour ne pas se faire avoir comme ce fut le cas dans les premiers échanges?
Il est juste prudent de pouvoir identifier clairement et de manière transparente ce que le Congo veut tirer de la coopération avec la Chine, plutôt que de rester dans un flou et nous faire rêver d'une situation un peu messianique pour dire que tous nos problèmes sont résolus, comme ça a été dans le cas du contrat précédent. Il va falloir qu'on identifie des choses bien mesurables, vérifiables, identifiables, et essayer de trouver quand même que dans les échanges que nous faisons, il n'y a pas qu'un seul pays qui en profite, mais que le Congo est aussi à bonne position dans ces échanges-là.
Merci, professeur Arsène Mouaka. Moïla Tchiembe, professeur et directeur de l'Institut panafricain de géopolitique de Nancy en France, spécialiste en relations internationales. En guise de conclusion, que peut-on retenir de vous ce soir?
Disons que le voyage est nécessaire, il est pertinent, il arrive peut-être à point nommé, parce que d'ici demain, le pays va en élection et on ne sait pas ce qui se passera demain. Donc c'est tout à fait normal que le président de la République en exercice aille en Chine et qu'il dise des choses, notamment sur le fameux contrat du siècle pour lequel le Congo n'a rien gagné. Alors s'il peut redresser la barre avec les Chinois et leur parler sincèrement mais fermement sur quelle perspective économique il entend engager le pays avec les alliés ou les amis chinois, Parce qu'au fond, même ce que vous soulevez là, monsieur Dona Madimba, sur l'agriculture, vous connaissez le fiasco de Bokangalozo. On a cru que l'Afrique du Sud montrerait le chemin au Congo, etc. Aujourd'hui, Bokangalozo, c'est un fiasco terrible. Au point que personne ne veut même qu'on en parle. Et je ne peux pas revenir sur l'épilogue de ceux qui ont dirigé ce pays et qui s'est vanté dans les médias d'avoir ouvert un chemin nouveau avec Bokangalozo et qui aujourd'hui n'ont plus de voix. Donc, l'important c'est de savoir qu'est-ce qu'on demande du point de vue agriculture. Qu'est-ce que les Congolais ne peuvent pas faire eux-mêmes qui demandent qu'ils aient besoin de la Chine? C'est ça la première question à laquelle il faut répondre. Si on te tendait la main à la coopération agricole chinoise, c'est pour produire quoi? Qui va consommer ce quoi et à quel prix? Si on a des réponses préalables, c'est ça l'expertise. C'est au gouvernement congolais. C'est aux experts congolais de dire aux Chinois, voilà, vous voulez les minerais, vous nous avez dupé sur l'ancien accord, on peut clarifier. Sur de nouveaux projets, voilà les intérêts du Congo. Que ce soit sur le plan militaire, que ce soit sur le plan agricole, que ce soit sur l'investissement dans d'autres domaines, que ce soit, par exemple, en ce qui concerne la fabrication des batteries, etc., avec le cobalt. Tout ça, on peut le faire avec les Chinois. Mais c'est la partie congolaise qui doit dire aux Chinois, voilà l'intérêt supérieur du Congo. Nous voudrions négocier cet intérêt, à quel prix et pourquoi faire. Si la Chine est preneuse, on peut discuter avec la Chine. Si la Chine n'en veut pas, on peut regarder ailleurs. C'est ça la réalité. Le commerce, ce n'est pas de sentiments, ce n'est pas l'amitié au sens un peu vague. Non, c'est intérêt contre intérêt. On respecte l'intérêt des Chinois qui veulent les minerais, mais quel est l'intérêt des Congolais? Cet intérêt-là, on doit le dire clairement aux Chinois, les limites qu'on peut accepter, et si on n'accepte pas, on n'accepte pas. Vous savez, les voyages, on peut les faire, mais si on dit des choses au partenaire et que le partenaire n'en veut pas, ben on peut rentrer joyeux de lui avoir dit la vérité, même si l'accord n'a pas été concluant.
Merci, professeur Moïla Djiembé. Bruno Kadiat, docteur en économie de développement et professeur à l'université de Kolwezi dans la province du Lualaba. Quelle est votre conclusion ce soir?
Merci, Dona Madimba. Je voudrais dire ceci. La croissance économique phénoménale et expansive de la Chine a offert une opportunité d'accélérer le développement, comme vous le savez, de beaucoup de pays africains. Il y a ceux qui ont su tirer profit de cette coopération, mais pour ceux qui sont de notre pays, la RDC, les constats laissent à désirer. Le défi ultime d'un État de tradition minière et de traduire l'accroissement de la production minière et des rentrées de recettes en une amélioration concrète du bien-être des populations. C'est pourquoi nous espérons que la visite effectuée par le chef de l'État en Chine va apporter des solutions à ce problème. Merci, Dona Madimba.
Merci à tous les trois. Merci au professeur pour votre disponibilité ce soir pour éclairer l'opinion de la République démocratique du Congo. Jean-Claude Nsiala et Guy Maté m'ont aidé à préparer cette émission. Dona Madimba, c'est moi à la présentation. Dialogue entre Congolais, c'est fini pour ce soir. Merci de votre attention. Au revoir.